Bonjour à tous, il est 8h et vous êtes en direct dans le pire reste à venir sur Principe Actif et HDR à Rouen jusqu'à 9h. Alors aujourd'hui, on va parler d'écologie et d'action citoyenne avec l'association Les Transitionneurs. Philippe Lefebvre sera avec nous. Il sera là aujourd'hui pour parler de l'association, des actions que met cette association en place, mais aussi de l'actualité, car ce week-end, il y aura l'inauguration d'un rocher pédagogique. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Nous aurons aussi Thibaut qui sera toujours présent pour nous présenter un nouveau jeu de société. On n'oublie pas les bons plans et le répondeur, mais tout de suite, on démarre en musique.
Okay, the money on the way, it'll lay by the first. Adolescence, I would curse on the way to the church. My career just turned a curse of how I connect the words. I ain't grow up with much of shit, but still it could have been worse. He ain't focused on the pants, he won't get in a purse. I need it all in advance if they book me to work. From we barely had a chance, left the crib on alert. To a crib with alarms and security perks. And security hurts, the same way jury works. So if you paying the flex, pay your security first. No point in paying for whips to ride a funeral hearse. We be prepared for the best, but also fearing the worst.
Okay, every nigga that I know is scared of going broke. I know if I fall back down, ain't no one there to lend me rope. Okay, and every nigga that I know takes care of so-and-so.
So ain't no option,
option, option. You best go make more.
I was taught, but once you made money, you be more afraid than a saw. My grandfather drove a Corvette convertible car. He passed away and left his will to the fate of the stars. I made it cool, off of saying a bar. I was scared to spend a dime, like what if I die tomorrow? When my fam intervened for a bag of the G's and a black Model 3, sheesh, passenger seat. Will my fans leave if I can't put asses in seats? If I log out an app or I lack a retweet, I'm just scared to go back. Didn't have shit to eat, have my bread go to taxes, the actual thing.
Okay, every nigga that I know is scared of going broke. I know if I fall back down, ain't no one there to lend me rope. Okay, and every nigga that I know takes care of so-and-so.
So ain't no option,
option, option. Let's go make more.
Cause the hunger, the monsters, I feel
we'll be right back.
C'était Samba avec le titre Filmmonger.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Ouais, salut la matinale.
Hi, Principe Actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, là, t'es mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bonjour, ici l'association Les Amis de la Maladrerie. Cette maladrerie est à Gravigny. Elle ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez donc la visiter avec un guide samedi ou dimanche de 14 à 17 heures. Et samedi soir, donc samedi 17 septembre à 20 heures, la maladrerie vous propose un concert par le Canteleu Big Band. Ce concert est gratuit. Il suffit de réserver votre place au 06 46 66 64 38. À bientôt.
Eh bien, rebonjour Philippe, vous êtes, comme je le disais, secrétaire de l'association des l'association transitionneurs à la clé Vallée d'Eur. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'association transitionneurs?
Alors, transitionneurs, notre objectif c'est de sensibiliser à l'urgence climatique, donc on voit que c'est un thème très très vaste. Et c'est une association qui est jeune, puisqu'elle a été créée mi-2019. Et on peut enlever, entre mi-2019 et maintenant, on peut enlever quasiment deux années de Covid où il ne s'est pas passé grand-chose. On l'a créée avec quelqu'un avec qui je suis devenu ami et que j'avais rencontré sur un jardin partagé qui était situé à une quinzaine de kilomètres de chez nous. En fait, on ne se connaissait pas et on a découvert qu'on habitait dans la même commune et qu'on faisait 15 kilomètres une fois ou deux par semaine pour aller faire du jardin partagé ailleurs. Et on a décidé de créer cette association en allant au-delà du jardin partagé. Et je vais dire qu'on ratisse assez large sur des termes comme l'alimentation, la biodiversité, consommer autrement, les bilans carbone des activités qu'on souhaiterait développer aussi avec l'association. Et puis, je dois oublier plein de choses que vous retrouverez de toute façon sur notre site internet.
Alors, cette association, elle a une particularité parce qu'il n'y a pas de président.
Oui, effectivement, ce n'est pas une obligation réglementaire d'avoir un président dans une association. Donc, on a opté pour que ça soit le plus collaboratif possible. Ça a des inconvénients. Parce que parfois, avoir un président, ça permet d'être très, très réactif, de répondre à des demandes, et puis surtout pour les gens qui sont en face, d'identifier facilement un interlocuteur. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Le gros avantage, c'est qu'on est obligé de se parler pour prendre des décisions, et plus on confronte d'idées différentes, et ben plus les solutions qu'on trouve à nos problèmes ou à nos envies sont riches. Et donc ça, c'est vraiment un atout d'être sans président.
Alors, vous retrouvez souvent, du coup, entre vous?
Alors, on a... alors, ça, c'est réglementaire. On a un conseil d'administration, même si on est une toute petite association. Et on se retrouve... Donc, on est 8 dans le conseil d'administration et on se retrouve une fois par mois pour... faire avancer les différents projets, envies, idées de l'association.
Comment ça se passe du coup dans cette association? Vous faites pas mal de choses, alors comment ça se passe pour faire naître ces idées? Est-ce qu'il y a la commune qui vous demande, je ne sais pas, de créer quelque chose? Vous vous dites, tiens, justement, il manque peut-être une niche à insectes ou un rucher? Ou... Comment ça se passe, les projets? Comment ils naissent?
Alors, pour le moment, la commune n'est pas très demandeuse. Les projets qu'on a menés au tout début de l'association, donc entre mi-2019 et le premier confinement en mars 2020, sont nés d'une concertation collégiale. On a fait une assemblée plénière avec les 30 premiers adhérents, qu'on a quasiment conservé tout le monde depuis cette date. Et chacun, on s'est accordé sur des axes d'action qui étaient la mise en place d'un jardin partagé, la thématique de consommer autrement et puis la préservation de la biodiversité. Et ensuite, au travers de ces trois axes, on a décliné des actions qui seraient possibles à mettre en œuvre. Et en fonction des habiletés, des compétences, des savoirs des membres de l'association, certaines choses ont émergé assez naturellement. Comme par exemple la construction d'un insecte hôtel à insectes géant qu'on a fait avec les écoles de la commune et qui a été implanté sur le territoire communal comme action de sensibilisation à la perte de biodiversité. Voilà comment ça naît. Et puis chaque adhérent est libre de proposer des idées et d'essayer de les mettre en œuvre. Voilà, il n'y a pas trop de tabou. On essaye d'être le moins directif possible.
Ça représente combien d'adhérents du coup dans l'association ?
Donc, comme je vous le disais, quand on a créé l'association, à notre grande surprise, on a vu 30 personnes arriver, ce qui était assez inespéré à la création d'une telle association à l'époque. Et on a conservé nos 30 adhérents. Donc aujourd'hui, on est peut-être 29 ou 31, je ne saurais pas vous le dire avec précision, mais on tourne autour de 30 adhérents, dont on va dire une dizaine de très actifs, et puis ensuite, pour les autres, selon leur disponibilité, ils vont appuyer les actions ou non.
Alors ça fait quand même pas mal de monde, une trentaine d'adhérents, donc chacun apporte sa petite idée. Et est-ce que aussi vous allez chercher, par exemple, les habitants de la commune pour un peu les sensibiliser à leur environnement ?
Alors ça, non, on n'a pas pu encore le faire. On va pas non plus aller faire du porte-à-porte. On n'a pas pu le faire, surtout à cause de la période qu'on a traversée. C'était pas facile pour réunir les gens. Donc, par contre, on a lancé, comme je le disais en introduction, un dispositif qui s'appelle Mon Village Espace de Biodiversité. Et on a lancé sur la base du travail d'une ingénieure CNRS. C'est Madame Sylvie Hout que je tiens à citer parce que c'est vraiment elle qui a construit ça et pas Transitionneur. Et donc sur cette base-là, on parle de biodiversité, on parle de biodiversité avec tout le monde. Donc sur les animations grand public qu'on a mises en place, elles sont ouvertes à tous. Donc là, effectivement, on peut parler à tout le monde, quelle que soit sa sensibilité, et faire un peu de sensibilisation sur ces sujets-là.
Alors, en animation, il y avait un flyer sur toutes les activités qui étaient faites par l'association. Donc, on a par exemple une projection débat autour du film Après-demain. On a des ateliers bouturage, ateliers nichoir. On a des chantiers participatifs, création d'une chape en chaux. On a une randonnée potagère. On a une participation à une journée ramassage de déchets, création de jardin potager. C'est très diversifié. Votre champ est assez large dans l'association. Alors, est-ce que tout le monde participe, par exemple, un adhérent va dire, tiens, moi, je sais faire ça, je vais initier un atelier autour de ça. Ou est-ce qu'il y a vraiment une personne désignée dans l'association qui participe un peu à toutes ces actions ?
Alors, comme dans toute association, il y a des gens qui sont plus moteurs, sans doute, parce qu'ils ont parce qu'ils ont plus de temps, soit parce qu'ils ont une très, très grande motivation. Mais effectivement, tout le monde participe et l'objectif, c'est de faire participer ponctuellement des adhérents. Dernièrement, on a une adhérente qui a fait développer des ateliers OIA. Alors, les OIA, c'est pour donner à boire aux plantes. C'est des petits récipients en terre cuite qu'on met au pied des plantes. Ça permet d'économiser l'eau. Une autre adhérente qui a proposé une balade botanique. On a fait aussi des ateliers donc taille des arbres fruitiers, puisqu'il y a des gens dans l'association qui ont ces compétences-là. Puis on a des bricoleurs et trois, quatre, cinq personnes très orientées sur les matériaux de construction biosourcés, dont je fais partie, et ce qui explique aussi des ateliers participatifs avec la mise en œuvre de chaux. Ou très récemment, cet été, on a fait un atelier torchis pour réparer la maison d'un de nos adhérents. Donc effectivement, on est assez polyvalent.
Les ateliers bouturage, c'est sur un terrain que vous avez ou c'est vraiment chez des adhérents comme par exemple vous venez de le Muran
Torchis.
Torchis, c'est ça.
ça dépend. Ça dépend, en fait. Alors, ça a surtout dépendu du Covid et où c'était le plus facile de réaliser. Si effectivement, il y a des ateliers qu'on a pu faire en extérieur et c'était facile, plus facile chez des particuliers qu'ailleurs. Ça dépend du nombre d'inscrits à l'atelier parce que c'est très variable quand on parle d'atelier. Parfois, si ça intéresse pas grand monde ou si la date n'est pas super bien choisie, vous pouvez avoir 6 personnes et puis l'atelier d'après, vous avez 35 personnes. Donc, c'est vraiment variable. On a effectivement un petit terrain qui est prêté par la maraîchère bio qui est installée à la Croix-Saint-Leufroid, qui nous permet d'accueillir des petites activités quand le besoin s'en fait sentir. Mais ce n'est pas une habitude établie.
D'accord. Mais ça aide aussi, les personnes qui... On peut aussi aider les gens chez eux à faire comme on disait, le mur, les arbres, ça permet aussi ça, c'est vraiment collaboratif dans cet esprit-là.
Oui, c'est une idée qu'on essaye de développer et de mettre en œuvre. Effectivement, quelqu'un qui a une compétence pour... On a un de nos adhérents qui cherche vraiment à aller vers beaucoup d'autonomie. Donc, il a des panneaux solaires, des toilettes sèches, etc. Donc, on pourrait tout à fait imaginer, si l'adhérent le souhaite recevoir des personnes de l'association chez lui, faire un chantier participatif qui permet de faire découvrir aux inscrits des techniques, comme sur les murs, la mise en œuvre de murs en torchis. Et puis, en même temps, ça aide aussi celui qui reçoit. Donc, c'est vraiment un échange en toute simplicité et sans arrière-pensée lucrative. Derrière, il n'y a pas de droit d'inscription, rien. C'est un échange de savoir et montrer qu'il y a plein de méthodes alternatives à nos habitudes actuelles qui sont tout à fait viables et qui réduisent aussi nos émissions de carbone.
Eh bien, merci Philippe. Je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Alors, les bons plans pour ce week-end. Alors, samedi 17, vous aurez les scènes ouvertes au silo de Verneuil avec trois groupes, Talkie Walkie, Mug Slug et les copains de Summer of Violence. Donc, c'est à 20h30 et c'est gratuit. Samedi toujours, journée matrimoine à 17h au Gisacom du Vieil Évreux. Vous aurez Léonie Pernet, Otis Kerr, Léo Vauquelin et Johnny and Rose qui joueront à partir de 17h. À la Brasserie Sport, vous aurez un tournoi de cornhole, donc c'est à partir de 14h pour démarrer les inscriptions et commencer à s'échauffer. Mais ce week-end, c'est aussi les journées du patrimoine, donc plein de sorties à faire un peu partout, comme par exemple, vous avez les archives de l'heure qui sont ouvertes. Vous pourrez découvrir les coulisses d'un peu de l'entretien des archives du département. Donc vous aurez trois visites, une à 14h, une à 15h30 et une à 17h. Et comme je vous disais, plein de choses à découvrir ce week-end pour ces journées du patrimoine. Et si vous voulez aussi ce week-end, le samedi 17 septembre à 21h, vous avez un concert de Fabrice Guillaume à la salle de Glisol.
Your woman now, she has more world.
C'était le groupe Summer of Violence avec le titre Old Mother.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Je suis toujours avec Philippe Lefebvre de l'association Transitionneur à la clé Vallée de l'Eure. On parlait tout à l'heure un peu de l'association, comment ça fonctionnait. J'aurais aimé parler un peu plus du changement un peu qu'on a en ce moment, on va dire, climatique, par exemple avec la sécheresse de cet été. Je voulais savoir s'il y avait des répercussions ou si on le ressentait dans l'Eure ou dans les communes.
Alors, je pense que si vous voulez avoir une vraie bonne réponse, il faudrait vous adresser au GIEC normand, qui seront plus...
C'est les GIEC ?
Le GIEC normand. Vous
pouvez me décrire...
Alors, le GIEC, oui, effectivement, le GIEC, c'est le groupe d'experts international sur le changement climatique. Et il y a une déclinaison au niveau normande. Donc, je pense que là, vous aurez des très bonnes réponses, beaucoup... plus fiables que les miennes. Bon, je pense que là, tout le monde a bien compris ce qui se passait cette année avec des événements climatiques plus fréquents et plus intenses. Donc, canicule, donc montée des températures et sécheresse avec un manque d'eau. C'était répandu dans toute la France, donc je pense que toute personne qui a un jardin a bien vu son herbe jaunir à une vitesse grand V. Voilà, donc les techniques pour essayer de limiter cette perte d'eau, ça va être, je pense que je vais heurter certaines personnes, mais c'est d'essayer de plus tondre son jardin et de laisser les herbes hautes, très hautes, parce qu'on va mieux conserver l'humidité au sol, et puis on va aussi préserver la vie du sol, c'est très important.
Il y a beaucoup de communes d'ailleurs qui le font, qui ne tournent plus vraiment justement pour garder une biodiversité, tous les petits insectes qui sont dans l'herbe.
Oui, oui, alors il y a des obligations réglementaires qui commencent à venir là-dessus, et puis par rapport à la biodiversité qu'il y a dans l'herbe, en fait, on ne se rend absolument pas compte, parce que ce n'est pas visible à l'œil nu, mais il y a une vraie richesse dans le sol et à la surface du sol. Et quand on passe la tondeuse ou un débroussailleur à fil, en fait, on broie tout ça. Tandis que quand on laisse l'herbe pousser, les petites bêtes ont de l'espace pour vivre. Et ça permet de garder aussi de l'eau. Donc, alors évidemment, quand on a des grandes sécheresses comme ça, à un certain moment, le système atteint ses limites et on va avoir un terrain tout sec. Les bonnes astuces, ça va être de pailler beaucoup, beaucoup le potager. Donc, pailler, et de préférence avec de la paille, avec des très bonnes épaisseurs de paille. Hein. C'est pas 3 cm, on est plutôt sur l'ordre de 20 cm. Donc là, on va faire d'énormes économies en termes d'arrosage. Et puis, ça va permettre de garantir un accès à l'eau aux plantes. Par contre, sur les canicules, là je parle de canicules, il y a eu un rayonnement ultraviolet très fort qui a fait aussi, certains adeptes du potager ont dû le constater, ça a grillé certaines plantes. Moi, dans mon potager, j'ai des pieds de tomates qui ont carrément cuit, qui ont été brûlés en fait par le soleil. Donc ça, c'est quelque chose de très palpable que chacun a pu appréhender cette année, parce que c'est vraiment une année exceptionnelle. Et je pense que c'est important d'avoir en tête que cette année exceptionnelle va devenir globalement la norme en 2050.
Alors, on parlait justement tout à l'heure de méthodes alternatives. Donc, on parlait justement de ne pas tondre la pelouse, le paillage du potager. Mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes justement pour préserver son jardin ?
Alors, les autres méthodes pour préserver son jardin, bon, ces deux-là déjà sont très importantes. Après,
pour préserver son porte-monnaie.
Alors, pour préserver son porte-monnaie dans le jardin, on peut prendre, pour ceux qui ont un jardin suffisamment grand, prendre l'habitude de broyer les végétaux. Si on taille par exemple des haies et s'en servir comme paillage pour aller nourrir le sol, pour aller faire de l'engrais. Faire du compost, soit avec les déchets alimentaires compostables, soit avec tout ce qui sort du jardin. En fait, on ne se rend absolument pas compte quand on n'a pas essayé cette mise en œuvre des ressources du jardin. Donc, l'idée, c'est de garder le maximum possible l'eau sur le terrain, dans le jardin, éviter son ruissellement trop rapide, parce que sinon... On a tous vu ça dans certains champs au printemps, quand il y a beaucoup d'eau qui ruisselle, ça fait des croûtes et donc le sol est plus aéré, il respire plus, les échanges gazeux se font moins bien, et puis de ce fait-là, ça altère aussi la vie présente dans le sol. Évidemment, pas utiliser de pesticides, etc. Et garder à l'esprit que plus on a de biodiversité dans le jardin, et plus tout ça s'autorégule. Moins on va avoir de maladies et moins on va avoir besoin des traitements chimiques, même si certains sont classés compatibles avec l'agriculture biologique.
On parlait tout à l'heure de permaculture, j'aurais aimé qu'on revienne un peu dessus et qu'on décrive un peu ce que c'est la permaculture, parce qu'on entend beaucoup parler, mais concrètement, comment on définit la permaculture ?
La permaculture, elle est très très souvent associée au jardin, mais c'est un concept beaucoup plus vaste. Ça va être très difficile de le résumer ici. L'idée de permaculture, je dirais que c'est la culture de la permanence des choses. Comment je préserve le monde dans lequel je vis par mon attitude, comment j'arrête de le détruire par mes habitudes, mon ignorance. Et quand je dis mon ignorance, c'est pas du tout péjoratif, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore, que nos sens sont capables de nous leurrer facilement sur plein de choses. Et quand on commence à s'intéresser au sujet de la transition écologique, ça casse plein d'idées reçues. Donc pour la permaculture, elle est surtout associée au jardin, mais elle ne se limite pas à ça. C'est tellement vaste que je peine très honnêtement à la définir mieux que ça. Le père de la permaculture, c'est Bill Mollison. Donc je vous engage à lire son gros livre vert d'environ 1000 pages, sans vouloir effrayer personne, pour découvrir ce concept de bien-être et de bonnes relations à entretenir avec la nature. C'est aussi des concepts qui se développent au niveau de l'OMS. Le concept de la santé unique, qui dit simplement que pour que les hommes soient en bonne santé, il faut que la planète et l'environnement soient en bonne santé et qu'on chacun y trouvera son équilibre. Donc comme quoi, Bill Mollison, qui a écrit son livre il y a plusieurs décennies, n'était pas complètement fou, puisque l'OMS reprend de façon très scientifique maintenant des concepts très voisins.
Alors la permaculture, on entend parler depuis à peu près 5-6 ans, mais c'est quelque chose qui est plus vieux ou qui est vraiment né Non.
La permaculture, oui, non, c'est effectivement plus vieux. Alors je ne saurais pas dater précisément, mais je pense qu'on doit être sur des années alentour des années 80, peut-être même avant. Effectivement, ça a été très médiatisé et ça a été rendu assez célèbre par les expériences de la ferme du Bec et Loing, qui vraiment sont assez bluffantes, tout ce qui a été fait au Bec et Loing, avec notamment l'approche scientifique, c'est vraiment bluffant. Et puis, ça a été bien développé dans les médias, mais surtout en se limitant à l'aspect jardin. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège de ce qu'on nous vante dans les médias ou dans des livres ou des sites internet. Faut pas croire que quand on fait un jardin en permaculture ou plus exactement sur sol vivant, que tout est facile. Si vous voulez un jardin productif, si vous voulez améliorer votre autonomie, il va de toute façon falloir y passer du temps et mettre les mains dans la terre. Un ami à moi dit qu'il faut avoir les mains calleuses. Et il a absolument raison. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça demande beaucoup moins de temps que faire un potager complètement traditionnel. Où on s'embête à désherber, etc. Donc voilà, ça a ces vertus-là. Maintenant, garder à l'esprit que la permaculture, ça ne se limite pas au potager.
Vous parlez tout à l'heure des habitudes à apprendre, mais il y a aussi les habitudes à apprendre aussi à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, moi par exemple, je n'entendais pas du tout parler des bons gestes, des choses comme ça. On voit maintenant beaucoup d'écoles avec un potager dans les cours, tout ça. C'est quelque chose qui se démocratise un peu plus, par exemple en école primaire, même au collège.
Oui, alors effectivement, on en voit de plus en plus. La difficulté pour les enseignants, puisque dans l'association, on a aussi des enseignants, c'est de faire vivre ce potager, puisque généralement, les potagers sont productifs, on va dire, entre juin et septembre, pour qu'on fait des cultures un peu faciles, comme tomates, haricots verts, pommes de terre, etc. Donc faire vivre le potager pour les enseignants, en plus de leur charge de travail d'enseignant, c'est pas toujours facile, donc c'est bien quand il peut y avoir en soutien soit un employé municipal, soit une association qui vient aider à l'entretien quasi quotidien de la parcelle pour faire de la pédagogie auprès des élèves.
Eh bien, merci Philippe, on fait une pause musicale, on se retrouve tout à l'heure.
Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say, but I said it anyway. Smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna take you from the side. When we dance in my living room, to the silly 90s R&B, when we have a dream. Always ends in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from the sun. Microphone and sing with the sunglasses on to a favorite song, and we're laughing in the microphone and singing with the sunglasses on to our favorite song. Take you from the side.
C'était le groupe Cigarette After Sex avec le titre Nothing Gonna Hurt You Baby.
Le pire est à
Tenez, voilà votre pion.
Merci.
Bienvenue dans le jeu, Nicolas. C'est parti.
Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Alors de quel jeu tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti en début d'été, gros succès, et un jeu qui est intégralement fait en France. Alors du coup, j'avais vraiment beaucoup envie d'en parler parce que, évidemment, un jeu de société, comme beaucoup de choses, il y en a énormément qui sont quand même intégralement produits, imprimés, etc. en Chine et qui sont envoyés en transport. Celui-ci, en fait, c'est une entreprise qui nous faisait à l'origine nos pistes de dés. Donc les pistes de dés, hein, tout simplement, c'est des petites choses un petit peu en néoprène, très jolies avec des jolies imprimées, qui permettent de lancer des dés sans qu'ils se baladent dans tous les sens, etc. Vous connaissez peut-être les grosses pistes de dés, un petit peu de bar ou autre. Je sais qu'on en a filé pas mal sur Évreux, au bar du coin. Mais voilà. Et ben ils se sont dit un jour, on fait déjà les pistes de dés, on va aussi faire et produire un jeu. Il se trouve que ce jeu, donc, tout est fait intégralement en France, imprimé en France. Le matériel est somptueux et on voit et on prouve que c'est un jeu qui peut être à un prix tout à fait honnête et intégralement fait en France. Ce jeu s'appelait Kyudo. C'est un jeu de dés, ça tombe bien parce qu'il y a justement une piste de dés qui est intégrée dedans, une piste avec un petit numéro de série, unique au monde, donc on voit un peu l'exemplaire unique qu'on a eu. Il y a même les protège-cartes intégrées, des petits jetons en acrylique, etc. Comment ça joue? Faut voir ça un peu comme une revisite du Yams. Le Yams, le 421, des jeux de comptoir qu'on connaît bien. Hein. On va prendre un petit peu cette idée-là, donc d'un jeu de dés dans lequel on va avoir à son tour 3 lancés, comme au Yams. On lance nos dés, on isole les dés qui nous intéressent, on relance les dés qui nous intéressent pas. On fait ça 3 fois. Au bout du 3e lancé, et ben on va devoir utiliser nos phases de dés. Alors dans le Yams, c'était plutôt des valeurs, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là ici, dans Kyudo, on incarne des archers, des maîtres archers. Et notre objectif, ce sera envoyer des flèches dans notre cible et remplir notre cible. Le premier joueur, en fait, qui réussit à finaliser donc dans sa petite fiche de score, à envoyer ses petites flèches à l'aide de CD évidemment dans ses cibles, va gagner la partie. Si et seulement si il a plus de spectateurs que les autres joueurs. En fait, on a vraiment deux éléments hein, dans notre fiche de score, la cible d'un côté et le nombre de spectateurs qui nous reste de l'autre. Et ce qui va se passer, c'est que c'est un jeu qui, contrairement au Yams, au 421, etc., va donner beaucoup, beaucoup d'interactions, en fait, entre les joueurs. On va vraiment essayer, grosso modo, de se faire chier. On va vraiment regarder ce que font les autres. On va vraiment s'amuser un petit peu à la fois s'aider nous-mêmes en mettant les flèches dans les endroits qui nous manquent et à la fois essayer de regarder, tiens, là, je pourrais te faire perdre 2-3 spectateurs. Je vais peut-être faire ça. Voilà. Donc c'est un jeu qui est vraiment court, 2 à 4 joueurs, 20 minutes de partie, super beau matériel, vraiment. C'est vraiment très chouette de bout en bout. 7 ans et plus au niveau des règles. Et pour 27€, vraiment, vous avez petite poche en satin, les protège-cartes. Franchement, c'est un... Ça paraît gadget, hein, mais y a tellement de joueurs qui comptent absolument protéger toutes leurs cartes à chaque fois parce que c'est triste de jouer avec un jeu qui est moche ou qui est abîmé. Voilà, il y a vraiment un souci du détail particulier. Et donc, la piste D qui normalement se vendait 11€ est aussi inclus dans la boîte hein, pour 27€. Le jeu s'appelle donc Kyudo. Belle illustration, deux grands créateurs hein, qu'on fait ça. Des dons très connus dans le jeu de société et tout fait en France donc cocorico.
Tu veux jouer? Désolée, je ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans.
Nous revenons pour cette dernière partie d'émission, toujours en présence de Philippe Lefebvre, secrétaire de l'association transitionneur de la vallée, de la clé de la vallée de l'Eure. On a parlé un peu des méthodes pour bien garder son jardin, son porte-monnaie. On a aussi parlé un peu de l'association, des actions mises en place. Et il y avait quelque chose qui m'a un peu, pas interpellée, mais qui m'a questionnée, c'est sur manger autrement ou comment manger autrement. Alors je voulais savoir déjà pourquoi manger autrement et qu'est-ce que vous apprenez dans ces ateliers-là.
Alors l'alimentation, c'est un des 4 grands postes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu actuel, c'est bien de... Il y a 2 enjeux actuellement face à ce qu'on vit, c'est de s'adapter au changement climatique, parce qu'on ne va pas faire machine arrière. En tout cas, même si on revient à des situations antérieures, nous serons tous morts depuis très 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 longtemps. Donc là, va falloir qu'on s'adapte. Et l'autre enjeu, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les ordres de grandeur de ces réductions de gaz à effet de serre, actuellement, un Français, ça émet 8 à 10 tonnes de CO2 par an. Et si on veut arriver aux objectifs de neutralité carbone pour maintenir un réchauffement climatique entre 1,5 degré et 2 degrés à l'horizon 2100, il va falloir passer à 2 tonnes. Donc quand je dis ça, généralement les gens se mettent à courir parce que ça fait très peur. Après j'essaye de les faire revenir en leur disant qu'il ne faut pas faire ça à partir de lundi matin, mais qu'il faut faire ça progressivement. Et l'idée, c'est de baisser son bilan carbone à peu près de 7% par an sur 20 ans et vous arrivez à 2 tonnes. Ça, c'est des objectifs assez atteignables.
Alors, qu'est-ce qui, dans notre, pardon, dans notre bilan carbone, qu'est-ce qui fait que on en a le plus? Qu'est-ce qui fait que nous, on consomme, enfin, pas consommer le bilan carbone, enfin, je ne sais pas comment tourner ma...
Qu'on émet du carbone.
Qu'est-ce qui émet chez nous le plus de carbone?
Alors, il y a les transports. L'énergie liée à l'habitat, tout ce qui est consommation, ou plutôt hyper-consommation, et puis l'alimentation. C'est à peu près des postes à peu près équivalents. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis en place un atelier, effectivement, de sensibilisation à l'alimentation. Donc, nos ateliers sont toujours construits de la façon suivante. Il y a une première partie qui est un temps de diffusion du savoir. Donc, sur cet atelier, là, on avait expliqué où étaient les grands postes d'émission, notamment sur ce qui est consommation de viande. Pour faire très court, si vous voulez réduire efficacement votre bilan carbone, il faut manger très peu carné, local et bio et de saison. Voilà. Après, ça ne veut pas dire tomber dans un ascétisme pur et dur, il faut le faire progressivement. C'est sûr que quelqu'un qui a l'habitude de manger de la viande à tous les repas, il va falloir qu'il apprenne à cuisiner autrement. Et c'était l'objet de la deuxième partie de l'atelier où, quand on avait fait cet atelier, on avait la chance de bénéficier d'une petite cuisine et on avait pu partager des recettes qu'on a dégustées ensemble. Et même... pour reprendre le sujet de la viande, des gens qui ont l'habitude d'avoir des régimes très très carnés et qui n'envisagent pas de se passer de viande, étaient surpris gustativement des plats qu'ils ont consommés et qui étaient absolument sans viande. Donc voilà, donc les ateliers, il y a toujours une partie, quel que soit le thème de l'atelier, diffusion du savoir, on explique pourquoi c'est important de modifier ses habitudes. Il n'y a pas de jugement. On va pas stigmatiser les gens qui sont véganes, ceux qui mangent de la viande. On explique, on essaye d'être factuel et surtout de dire qu'il faut. Le message principal, c'est qu'il faut vraiment qu'on change nos habitudes. C'est vraiment urgent. Par contre, il faut qu'on le fasse progressivement. Et si on le fait progressivement, on a toutes les chances d'y arriver. Voilà, et l'autre partie de l'atelier, c'est quelque chose de plus pratique. Ça peut être construire un nichoir ou un hôtel à insectes, un nichoir pour oiseaux, ou voilà, partager des recettes de cuisine, etc. Un moment un peu plus ludique, où c'est aussi un temps d'échange informel entre les participants.
Justement, ce week-end, vous inaugurez un rucher dans la Clé de Vallée de l'Eure, c'est bien ça? Un rucher pédagogique. Alors peut-être expliquer un peu déjà ce qu'est un rucher. Pourquoi pédagogique? Parce qu'il a été créé avec des enfants ou parce que va y avoir un accompagnement fait avec les enfants dessus?
Alors effectivement, les enfants vont pouvoir développer des actions pédagogiques avec les apiculteurs du coin. Parce que notre association a aussi formé 2 apiculteurs pour à cette occasion. Donc c'est tourné vers les écoles, mais pas que, c'est aussi tourné vers le grand public. Le rucher est en accès libre, alors on n'accède pas aux ruches complètement, il y a un périmètre de sécurité autour et des consignes de sécurité, etc. On a fait des choses dans les règles de l'art. Je voudrais remercier l'agriculteur qui nous accueille sur son terrain, qui est dans une démarche très positive de réduction de tous ces intrants et qui nous suit sur ce projet-là. Et on entend développer dans l'année qui vient des actions de comptage. Alors, des actions de comptage, ça peut être des insectes, ça peut être des batraciens, ça peut être des oiseaux, etc. Mais l'objectif de ce dispositif, je vous ai dit qu'il avait été créé par le CNRS, c'est de faire de la science participative. Donc, quand on fait de la science participative, si on parle des abeilles, on va pas juste trouver que c'est très joli une abeille et que les frelons sont très méchants. On va expliquer pourquoi le frelon agit comme ça, comment l'abeille cherche à s'en défendre, pourquoi le frelon asiatique est arrivé jusqu'à nous. Il y a plein d'espèces invasives qui arrivent jusqu'à nous, qu'elles soient animales ou végétales. Donc ça, c'est l'opportunité de parler de la biodiversité, de son importance, parce que sans le service de pollinisation que rendent les abeilles, on serait assez mal pour se nourrir. Donc prendre conscience que la nature, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut consommer à loisir, mais c'est quelque chose qu'on doit aussi respecter parce qu'elle nous offre énormément de services écosystémiques. Il y en a 21, alors je ne les ai pas tous en tête. Voilà, donc là, avec le rucher, on travaille surtout sur le service de pollinisation pour montrer à quoi sert la nature.
Et est-ce que vous avez planté des fleurs, des choses comme ça pour aider les abeilles à polliniser ou pas ?
Non, ce n'était pas trop la peine. Elles ont trouvé facilement à manger tout autour. Donc, voilà, on pourrait effectivement, on a été en relation et ça n'a pas pu se faire cette année, mais on ne désespère pas de pouvoir le faire. Avec le département et la fédération de chasse pour effectivement implanter des jachères fleuries à proximité. Donc ça, on va relancer en espérant que ça puisse se faire, parce qu'il y a effectivement un aspect esthétique qui est sympa, mais une abeille, ça veut, en cas de nécessité, ça peut faire jusqu'à 10 km pour aller chercher de la nourriture. Si elle en trouve à 200 mètres, ça sera
c'est parfait.
Plus simple pour elle. voilà.
J'ai pas demandé combien de ruches, du coup, il y aura.
Alors, comme c'est pédagogique et que c'est un tout petit rucher, il n'y a que 2 ruches.
D'accord.
Mais ça suffit largement. C'est des ruches avec des fenêtres d'observation. Donc, voilà. Donc, on peut, en les approchant en combinaison, évidemment. Donc ça, c'est un des objectifs, c'est aussi d'amener des petits et des grands en combinaison. D'ailleurs, s'il y a des financeurs qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à abonder notre projet, parce qu'on aura des dépenses sur ces postes-là. Donc d'amener les gens, d'aller regarder ce qui se passe dans la ruche, et éventuellement, pour ceux qui oseront, parce que c'est un peu impressionnant d'ouvrir une ruche, pourquoi pas observer ce qui se passe quand on ouvre une ruche, comment on reconnaît la reine, etc.
Eh bien, merci Philippe. Du coup, ça c'est ce week-end, je n'ai plus l'horaire en tête, est-ce que vous pouvez me le rappeler ?
Alors, c'est à 14h et on s'est donné rendez-vous à l'église de la Croix-Saint-Leufroy, donc il y aura tous les participants. Il y a une chose très importante sur ce dispositif, c'est qu'on a co-construit les actions. Ce n'est pas que Transitionneur qui a apporté, il y a plusieurs associations de la vallée qui ont été partenaires. C'est vraiment des actions qu'on a co-construites pour sensibiliser un maximum de personnes. À titre d'exemple, une des actions a été un concert expo photo avec l'association Naturellement Relié et plusieurs chorales locales autour de la biodiversité.
Eh bien, merci Philippe. On fait une pause musicale et on revient pour la fin d'émission.
Feel it, feel it, now you're taking control.
le groupe DBCF avec leur titre Ride.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
8h10, 9h, 9h sur HDR et Principe Actif.
Alors du coup, merci à Philippe Lefebvre qui était avec nous aujourd'hui, qui est secrétaire de l'association Transitionneurs. Donc on disait tout à l'heure, événement ce week-end à 14h, j'ai oublié l'horaire, dis donc.
Non, 14h.
14h, c'est bien ça, à la Croix Saint-Leufroy pour l'inauguration du Ruchier. Peut-être vous donner les informations, les contacts, si on a envie par exemple d'adhérer ou contacter pour en savoir un peu plus pour l'association.
Alors, le plus simple, c'est de nous envoyer un mail à transitionneurs, alors avec un E à la fin, puisque c'est le département de l'Eure, @lilo.org. Et puis, on répondra à vos questions.
Eh bien, merci beaucoup Philippe. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions et à venir les voir justement pour l'inauguration du Ruchier ce week-end. Ce week-end, on sera aussi en direct du Gisacum pour la journée du matrimoine avec 4 groupes en concert. Restez à l'écoute de nos programmes. On vous laisse tout de suite avec le Flash Info RFI.